Bon les amis, c'est pas que je m'ennuie, mais il est tard.
Ok, mets ta ceinture si tu prends la voiture.
Et n'oublie pas ton parapluie.
Ni ton dentifrice.
Ta bombe lacrymogène dans la poche.
Et tes capotes si tu vas voir tes potes.
Et ton armure pour éviter les murs.
Le bouclier, c'est essentiel.
Et les vaccins surtout.
Et ton extincteur.
La crème solaire surtout.
Et ton paratonnerre.
Et ton doudou.
Le code pénal, c'est fondamental.
Ah, je le connais par cœur, ça t'inquiète pas.
Et surtout ton éducateur, hein.
Ça, j'en ai toujours un dans le coffre.
Oui, ok, il y a plein de choses qui protègent. Mais la vraie question c'est, de quoi doit-on se protéger?
Il y a plein d'autres choses à protéger. Les enfants, les démunis, la nature. Allez, on vous propose de venir explorer ce sujet-là avec nous.
Je renvoie l'impression d'être quelqu'un de direct, de franc. Je n'ai généralement pas peur de dire ce que je pense ou d'assumer mes opinions. Pourtant, je me rends bien compte qu'avec certaines personnes, je n'arrive pas vraiment à l'être. J'ai 27 ans, et dès que je sors de la maison, mon père fonce dans ma chambre. Il retend mon lit alors que je l'ai déjà fait, ou il re-range ma chambre alors qu'elle est déjà rangée. Je dois constamment l'informer de l'endroit où je suis, de l'heure à laquelle je rentre, de ce que je fais, avec qui. Si je le fais pas, il s'inquiète et il panique car il a l'habitude que je sois toujours joignable. Parfois, c'est vrai que je me sens oppressée, mais je préfère ne pas lui dire car je sais que c'est sa façon d'être protecteur avec moi, d'être un bon père. Je me tais et je mets des stratégies en place pour que tout se passe pour le mieux. Pendant longtemps, je croyais que j'étais comme ça qu'avec mon père. Mais j'ai pu faire la même chose avec mon ex-petit copain. Il avait un énorme besoin de contrôle dans notre relation. Il m'interdisait de parler à des gens, d'utiliser les réseaux sociaux ou même de sortir à certains endroits. C'était pour lui le seul moyen qu'on aille bien. Mais moi, j'étais pas de cet avis. Je comprenais ses angoisses et ses peurs et je voulais aussi l'en protéger. Alors j'ai accepté ses contraintes, mais de façon détournée. Je lui disais par exemple avoir arrêté de parler à mes copines alors qu'il n'en était rien. J'ai menti, j'ai dissimulé des choses, et finalement il a fini par le découvrir. Dans ce cas-là, tout ce que j'avais mis en place pour nous protéger s'effondre et notre souffrance a été encore plus grande que si j'avais été honnête dès le début. Alors, faut-il arrondir les angles? Je pense que oui, car cela permet à l'autre d'exister, de se sentir considéré, compris. Arrondir les angles, ça ne signifie pas s'oublier pour laisser toute la place à l'autre. C'est une forme de protection qui ne doit pas nous mettre à mal. Mais où est la limite? Il faut trouver un équilibre entre ses besoins et les besoins de l'autre. On ne peut pas tout dire, mais on ne peut pas tout tolérer non plus. Concernant mon père, je l'aime et je sais qu'il ne changera pas. Alors je continuerai à mettre en place mes mécanismes de protection et à le ménager. Pour la question de mon ex-petite amie, j'ai moi-même du mal à comprendre certaines de mes réactions. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux plus me retrouver dans ce genre de situation. J'exprimerai mes émotions, mes envies, même si cela ne convient pas à l'autre et que cela mène à la rupture.
Moi, à 19 ans, j'ai rencontré un homme. Je suis tombée amoureuse de lui tout de suite. Il n'avait pas une bonne réputation dans la ville où je vivais. Mais c'est ça que j'aimais. C'était un bad boy. Il pouvait me protéger. Mes parents ne l'appréciaient pas. Ils ne voulaient jamais le voir. Alors un jour, il m'a dit « Quel genre de parents n'acceptent pas de voir leur fille heureuse? Je suis pas assez blanc, c'est ça? Pas assez riche? Mais tu m'aimes? Alors viens vivre avec moi. Je m'occuperai de toi. » Je l'aimais. Alors bien sûr, j'ai accepté. Et puis au bout de quelques semaines, il s'est mis à m'aimer aussi fort qu'il me détestait. Au début, c'était une gifle, parce qu'on n'était pas d'accord sur certains sujets. Et puis il s'excuse et il me dit qu'il m'aime. Alors on pardonne. C'est vrai, il s'est juste emporté, ça arrive à tout le monde. Il était fort. Tout le monde avait peur de lui, mais pas moi. Il avait juste du mal à gérer sa colère. Et puis il faut dire que ça m'arrangeait bien qu'on ait peur de lui. J'avais sa protection. Une fois, en allant chez ma copine, je ne comprends pas pourquoi, mais ma mère est là. Alors elles se sont mises à me dire qu'il fallait que je parte. Elles voulaient me protéger de cet homme que moi je voyais comme mon sauveur. Mais je ne pouvais pas le laisser seul. Comment j'allais le protéger de lui-même si je n'étais pas là? Alors j'y retournais. J'ai repoussé mes proches. Je n'avais pas besoin d'aide, ni de protection. Au bout d'un moment, les coups et les insultes devenaient beaucoup trop forts. Ma copine continue à me dire de partir. D'autres ont abandonné cette mission, voyant que je restais. Mon père, malgré la distance que je m'efforçais de garder avec eux, a changé de discours. Il m'a seulement dit que j'étais forte et intelligente, que je ne supporterais pas la situation éternellement, et que quand j'aurais ouvert les yeux, il serait là. Et pourtant, je restais. J'attendais le mur ou le fond du trou. Je ne sais pas quelle image est la plus adaptée et que je me relèverai. J'ai subi la situation en me posant une question. Pourquoi je reste ou j'y retourne à chaque fois? Ok, un truc ne tourne pas rond chez lui, mais chez moi. Comment je fais pour accepter tout ça? En fait, j'étais entourée par des gens qui m'ont vu pendant 3 années vivre des situations de violence. Et je n'ai pas accepté leur aide. Je l'ai même rejetée. Enfin, j'ai fini par partir. Et dans ces moments-là, on ne se tourne pas vers n'importe qui, mais vers les personnes qui nous ont accompagnés et qui n'ont pas perdu espoir en mon réveil. Car chacune de leurs paroles ou de leurs actes faisait enfin écho. Il fallait juste que je sois en capacité d'entendre et d'accepter tout ça. Aujourd'hui, j'ai conscience qu'aider quelqu'un qui ne le veut pas, c'est pas le forcer à adhérer à ce que nous on veut pour lui, c'est juste l'accompagner. Rester à proximité pour le soutenir le jour où il se décidera.
Donc on est à Montpellier, à l'Utopia. C'est un lieu qui a été réquisitionné par un collectif. Et on va voir comment ça s'organise.
Merci beaucoup de nous accueillir.
Merci à vous de nous rendre visite. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Bienvenue à Utopia 003. Donc, moi, je m'appelle Gwen. Je suis cofondatrice du collectif Utopia et référente sociale sur ce lieu de vie qui accueille actuellement un petit peu plus de 200 personnes et où je vous invite à la rencontre, à la découverte de ce lieu et de ses habitants. Donc ici vous arrivez un petit peu dans le cœur du lieu pour la simple et bonne raison que pendant très longtemps nous avons été privés d'électricité et que du coup notre espace de réunion se trouve ici au bord de ce foyer et qu'on alimente du coup avec du bois de récup, des palettes de récup, et c'était là qu'on avait installé du coup la cuisine d'hiver puisque nous avons passé une grande partie de l'hiver dernier sans électricité, et donc du coup c'est là qu'on faisait l'ensemble de nos repas collectifs et qu'on avait une source de chaleur pour pouvoir se réchauffer. Voilà.
Et comment ça se passe du coup quand quelqu'un a connaissance de l'existence de ce squat? D'ailleurs, est-ce qu'ils en ont connaissance par le bouche à oreille ou par le biais de, je sais pas, du 115?
Connaître ce lieu, ça peut passer par les médias, comme ça peut effectivement beaucoup passer par le bouche à oreille, majoritairement. Et ça passe aussi effectivement par les services d'État, les associations qui, quand elles traitent de la question de l'accompagnement de personnes, elles se retrouvent sans possibilité pour répondre à la mise à l'abri, à l'hébergement, pour la simple et bonne raison qu'elles n'ont pas les moyens d'eux, qu'elles n'ont pas de parc d'appartements sociaux. Et donc, du coup, effectivement, à la fin de leur accompagnement, elles vont avoir une forte tendance à conseiller de venir se présenter ici pour tenter sa chance.
Donc, j'avais une petite question, en fait. Parce que je vois que il y a beaucoup d'énergie qui est déployée justement au profit des usagers. Et je me posais la question de savoir si cette énergie, justement, pouvait être mise à profit et si ça serait opportun, en fait, de le faire dans un cadre légal.
Moi, je revisite la question le jour où l'État respecte les lois. Pour moi, user du droit de propriété d'un bien qui n'est pas usité par son propriétaire lui-même et l'investir pour pouvoir faire exercer l'ensemble des autres droits fondamentaux, moi, je continuerai tant que l'État lui-même ne mettra pas à l'abri tous ces gens. Donc, oui, on y a pensé, mais pour l'instant, non. Nous ne sommes pas illégaux. Loin de là, je rappelle que le squat est une occupation sans droit ni titre, mais absolument pas illégale. C'est aux yeux de l'État capitaliste que ça l'est. Mais cette maison vaut 7 millions, d'accord ? 7 millions d'argent public pour l'avoir laissé pourrir pendant 5 ans. Et nous, on l'occupe depuis 2 ans. Et je pense que la balance, il n'y a pas photo.
peut faire un tour.
Continue, mais bien sûr, mais j'avais prévu de vous faire tout. Alors, si vous voulez, je vous invite à monter à l'étage supérieur, qu'on appelle le 7e, et qui est l'étage des familles.
Qu'est-ce que tu en penses, Sarah, alors de ce lieu ?
Moi, j'avais déjà visité le rez-de-chaussée et je trouve ce lieu plein d'espoir pour l'avenir. Il montre une belle partie de ce monde, du soutien social, de l'humanité, des gens qui s'organisent avec cohésion et sans violence, qui tentent pas seulement de survivre, mais de vivre. प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां से कहां जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम.
J'ai grandi à Tahiti, l'île principale de la Polynésie française. Chez nous, on roule les airs. Quand j'étais plus jeune, pendant mes années lycée, j'ai vécu une trahison de la part de ma meilleure amie et de mon petit copain de l'époque. En gros, ce garçon ressentait de l'attirance pour ma copine. Je me souviens les avoir aimés tous les deux tellement fort. Sur le coup, j'étais dégoûtée, énervée et surtout, j'étais triste, profondément triste. À cette période de ma vie, je me souviens avoir aimé sans limite. De toute façon, les limites à cette époque, j'en avais pas beaucoup. On va dire que je ne contrôlais pas mes émotions, ni mes sentiments. Et surtout, je m'autorisais à les exprimer. J'étais légère. Depuis cette mésaventure, qui m'a énormément fait souffrir, j'essaye de me protéger pour ne plus revivre une telle souffrance. Du coup, maintenant, je tente de mettre en place des mécanismes de défense. En amitié comme en amour, j'essaye de prendre le temps de connaître la personne. Et j'essaye surtout de ne pas m'emballer sentimentalement. On va dire que je dresse entre moi et la personne que je rencontre comme un rempart de défense. J'ai l'impression que ça me protège et au fur et à mesure que la confiance s'installe, je baisse ma garde. Enfin, bon, pas trop quand même. Avec ma technique de protection, je me prive peut-être de vivre de belles histoires d'amour ou d'amitié. Mais voilà, pour ne plus être déçue par quiconque, je préfère rester dans le contrôle et n'être déçue que par moi-même finalement.
Quand j'avais 6 ans, mes parents ont divorcé. Mon père est parti et j'ai grandi avec ma mère et ma sœur. Une situation bien banale à l'heure actuelle. Rien d'extraordinaire, a priori. Quand je me souviens de la petite fille que j'étais à cette époque, je vois bien que je n'ai pas traversé cette période comme d'autres. Je me suis sentie en très grande insécurité. Ma vie a été chamboulée. J'étais une petite fille, je ne comprenais pas tout, ou du moins je faisais sûrement semblant. Peut-être pour me préserver. J'aurais aimé qu'on me protège de certains choix. Le divorce de mes parents s'est très mal passé. Je me suis très vite retrouvée dans un conflit de loyauté qui a été très compliqué à gérer. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Et depuis tout ce temps, j'ai tourné en boucle autour de ces questions. Pas facile de les aborder et de les régler une bonne fois pour toutes. Alors, j'ai fait comme si oublier mon passé, c'était possible. Ne plus en parler, c'était comme si ça n'avait jamais existé. Avec du recul et des années plus tard, je me rends compte que c'est sûrement ce que j'ai vécu, qui m'a conduit à devenir éducatrice. Évidemment que ce n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui, je sais bien que fuir le passé n'est sûrement pas la meilleure idée. C'est un mécanisme de protection qui permet de rester optimiste et de profiter des bons moments. Mais je peux vous assurer qu'un jour ou l'autre, le passé nous rattrape d'une manière ou d'une autre.
Bonjour.
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 Bienvenue, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, moi je suis Mathias et voilà, on va passer une petite partie de l'après-midi ensemble. Bon, moi, mon métier c'est animateur nature et du coup, j'ai quand même un peu l'ambition de partager certaines choses que je connais avec vous, mais aussi en même temps vous offrir un petit moment dans la nature, un petit peu comme une respiration, un petit peu comme un moment aussi où on peut aller chercher du bien-être. Parce que voilà, moi je crois profondément que la nature c'est aussi une source d'apaisement. Ça permet, par exemple, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire du yoga ou des sports de pleine nature, et il y a plein de chercheurs qui partagent tous les bienfaits qu'on peut avoir dans la nature, et je vous propose d'expérimenter ça. Bon, mais super, en avant.
Donc l'objectif principal de cette association, c'est la prévention par l'information.
C'est l'éducation à l'environnement, et particulièrement l'éducation dans l'environnement, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit encore, mais dans les valeurs de l'association, en fait, il y a des valeurs de protection de l'environnement, mais en fait, avant la protection de l'environnement, on se dit qu'on peut protéger que ce qu'on connaît, que ce n'est pas possible de s'impliquer dans la protection de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, nous, on trouve très important pour le public, pas que les enfants d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que les adultes aussi manquent de l'expérience de nature. Et du coup, le plus important pour nous, c'est de mettre les gens dans la nature.
Puis c'est plus facile aussi, si on s'y connaît, on sera plus sensible à vouloir protéger.
Si vous voulez, moi, ce que je vous propose, c'est juste d'essayer de faire le tour de ces barbelés, de regarder un petit peu partout. Et votre objectif, c'est juste d'essayer de comprendre à quoi ça peut servir cette zone protégée par des barbelés.
Nourrissage, défense d'entrée, danger, clôture électrique.
Ah ouais.
Et
ouais.
Alors, il y a des os accrochés à la clôture électrique. Des petits os d'animaux.
Ils sont écolos, en fait, ces rapaces. Et du coup, en fait, c'est leur déchet, ils la ramènent ici.
Une décharge de carcasses d'animaux morts.
Soit c'est les rapaces qui larguent les carapaces, soit sinon c'est un cimetière de rapaces.
Alors à partir de maintenant, n'hésitez pas à mettre tous vos sens en éveil.
Oh non, mon Dieu, oh, je suis pas bien.
Oh,
je suis
pas bien.
Ça pue
la moelle.
Ça pue la moelle,
t'es. Regardez de l'autre côté.
Ça me dégoûte.
Ah oui, on y est là.
C'est un mouton mort rempli de mouches. Je vois même pas sa tête d'ailleurs. Là, je vois que
je crois qu'il en a plus de tête.
Non, il y avait c'est que son corps, il y a plus de tête.
Mais ah si, sa tête, elle est là-bas, je vois son oreille. Ouais, je vois son oreille là-bas.
Vous pensez que c'est le rapace qui sont mis à 10 dessus, ils l'ont ramené ici? Non, c'est les humains qui l'ont ramené ici. Ouais. Mais c'est pas possible.
Bah oui, c'est des humains.
C'est des humains qui l'ont ramené.
Ouais, mais c'est pour ça. Enfin, normalement, ici, moi, je sens plus d'odeur, donc...
Ah, c'est bon, là.
C'est bon.
C'est les fermiers qui l'ont mis là pour nourrir les rapaces.
Alors, c'est exactement ça, en fait. En fait, c'est ce qu'on appelle un charnier, une aire de nourrissage, une placette à vautours. Et en fait, ici, on est sur une zone qui est assez importante parce qu'il y a ce vautour qui s'appelle le vautour, le percnoptère d'Égypte. Et en fait, ici, dans les gorges de l'Hérault, on a de la chance parce qu'il y a un couple, peut-être deux, sachant que maintenant, en France, il reste moins de 90 couples de ces oiseaux, et que comparé à il y a 10 ans, déjà, il y a quasiment 20 couples en plus. Donc, ça veut dire qu'en fait, les mesures de protection de ces oiseaux, là, maintenant, on a assez de recul pour dire que ça marche.
Ce qui marche aussi, c'est de prendre le temps de s'ouvrir à la nature. On a donc continué à déambuler au soleil, à observer les insectes ou les végétaux, à apprendre en douceur. On a même fini en partageant une infusion de plantes qu'on avait cueillies nous-mêmes.
Souvent, quand on me connaît, on me dit que l'image que je renvoie correspond pas à celle que je suis au fond de moi. Dans ma vie professionnelle, je suis là où il faut être. Je fais ce qu'il y a à faire, j'assure. Du moins, en apparence. Je suis parfois trop sensible, je doute, je peux me remettre radicalement en question. Une seule phrase, et je peux perdre l'équilibre. Ça fait partie de moi, je me suis construite comme ça. Cette fragilité, je la connais depuis toujours et je fais avec. C'est difficile de grandir, de se construire dans l'ombre de quelqu'un qui réussit tout, partout, tout le temps. Être constamment comparé, jugé, même sans malveillance, ça a sans doute produit cette faille, ce déséquilibre en moi. Je le sais que je fonctionne comme ça. Pourtant, au lieu de me protéger, j'enchaîne les situations où je me frotte à ses limites, à mes limites. Par exemple, à 23 ans, j'ai décidé de partir à Madagascar en mission humanitaire. Je suis partie 6 mois, seule. Je crois que j'avais envie d'un changement, de me confronter à un autre mode de vie, pour pouvoir peut-être apprécier mon environnement initial. J'ai vu, j'ai entendu et vécu des choses difficiles. Voir arriver les enfants à l'école à moitié nus, les cheveux pleins de poux, car quand on n'a rien, les poux, c'est la priorité de personne. Prendre en pleine figure qu'on n'a pas tous les mêmes départs dans la vie. Voir un bébé de quelques jours s'éteindre dans ses bras, sans rien pouvoir y faire. Entendre les pleurs, la douleur. Non, je ne pouvais pas craquer, pas tout de suite, pas devant eux. Heureusement, je n'en garde que des bons souvenirs. La rencontre avec la famille qui m'accueille, mon filleul, les moments de partage, les moments de doute, de joie, de peine. Je crois que j'ai ramené dans mes bagages une certaine assurance. Quand je suis rentrée en France, j'avais l'impression que rien ne pouvait m'atteindre, que j'aurais toujours vu le pire. Maintenant, je suis éduque. Je vais encore là où ça pique. Très vite, j'ai été confrontée à d'autres situations difficiles. Je me rends bien compte que malgré la difficulté, je me sens mieux assurée. J'espère que je serai une bonne éduque. En tout cas, j'y mets toute mon énergie. Aujourd'hui, si on me demande si j'ai un message à faire passer, je dirais que pour se sentir protégée, il faut connaître ses failles et apprendre à faire avec.
Papa de deux petits garçons de 2 et 4 ans, je suis un papa poule. Ou un papa comme celui de Nemo, si vous préférez.
Premier jour d'école, premier jour d'école. Allez, debout, réveille-toi, debout, premier jour d'école.
Je vais pas aller à l'école, je vais pas me lever tout de suite.
Pas toi, pas moi.
Ok.
Allez, debout, lève-toi, l'heure de l'école, l'heure de l'école, l'heure de l'école.
D'accord, je me lève.
Yuppie, yuppie, wow.
Nemo.
J'adore m'occuper d'eux. Mais apparemment, je suis trop sur leur dos.
T'es sûr que tu veux commencer l'école cette année? Il n'y a aucun problème, sinon tu pourrais attendre 5 ou 6 ans.
C'est l'heure de l'école.
Par exemple, quand on est au parc, j'imagine toujours le pire. Je les vois tomber de vélo, ou encore tomber du haut du toboggan. J'en oublierai presque que c'est là-haut que la vue est la plus belle sur le parc.
Ok, on est excités, premier jour d'école, nous voici tout ouverts au savoir, prêts à apprendre. Alors maintenant, pourquoi faut-il se méfier en abordant l'océan?
C'est plein de périls.
Très bien, mon gars. Alors, d'abord, on vérifie que la voie est libre. Donc, on sort, et puis on rentre. Ensuite, on ressort, et puis on rentre. Une fois de plus, sait-on jamais? On sort, et puis on rentre. Et parfois, si tu veux faire quatre
papa.
Fois...
Okay,
j'avais pas conscience d'être surprotecteur. Je pensais mes réactions normales. Et pourtant, ma femme m'a fait remarquer que je pouvais être trop dans l'excès concernant mes fils. Elle est moins créative que moi à ce sujet. Et c'est sûrement comme ça qu'on se complète dans l'éducation des enfants. Pourtant, je me considère comme quelqu'un de fonceur, qui a confiance en lui. J'ai envie de transmettre à mes fils cette façon d'être. Je pense que c'est ce qui leur permettra d'affronter les dangers de la vie. De savoir dire non, et de ne pas se laisser influencer. Est-ce qu'être surprotecteur avec eux, ça pourrait mettre à mal leur capacité à se protéger? Sûrement. C'est pourquoi j'essaie de ne pas leur montrer. Et c'est pas toujours facile. Alors je suis en train d'apprendre. Les laisser tomber de vélo, se faire mal, se relever, et comprendre qu'ils peuvent se protéger eux-mêmes de certaines choses. Mais je ne suis jamais bien loin au cas où. Je ne pourrais pas toujours être derrière eux, et j'en ai bien conscience. Plus tard, j'aimerais qu'ils puissent avoir assez confiance en eux et en moi. Qu'ils puissent nous parler en toute transparence, nous dire les choses qui ne vont pas. C'est la meilleure protection qu'ils pourront se donner. Et comme le père de Nemo, s'il le faut, je traverserai l'océan pour les récupérer.
Aujourd'hui, j'ai vu un documentaire. Il s'agit de « J'ai marché jusqu'à vous » de Rachid Oujdi. Le sujet, c'est l'accueil des mineurs isolés étrangers à Marseille. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est le regard de ces jeunes quand ils s'écoutent raconter leur parcours. Il y en a qui parlent et la caméra nous montre le visage des autres. Ces histoires, ils les connaissent. Ce ne sont jamais les mêmes, mais ça reste des histoires de souffrance.
I came because I don't have anywhere to go. I lost my both parents in the bomb blast in Maiduguri.
J'ai perdu mes parents lors du bombardement Maiduguri.
Because my father was a teacher.
Parce que mon père était professeur.
So it was when they died.
C'est quand ils sont morts que je suis parti car je n'avais nulle part où aller.
I left my place because I don't have anywhere to go. So I left. From Maiduguri, I went to Niger. From Niger, I have to go to Morocco. from Morocco, I crossed to Spain, from Spain.
Ce qui percute quand on voit leur regard dans ces moments-là, c'est de se dire qu'à la base, leur rêve est de vivre mieux, et que pour venir ici, ils sont passés par l'enfer. Du coup, c'est difficile pour nous de croire qu'ils vont mieux. Du coup aussi, ce qui percute encore plus, c'est de savoir que c'est loin d'être fini. Parce que le parcours administratif pour obtenir le droit de séjour, ou juste pour obtenir un logement, ça fait partie du parcours migratoire. Ils ont réussi à traverser des guerres, des déserts, des océans. Mais arriveront-ils à traverser l'espace administratif? Quand je regarde leurs yeux, je pense à tout le chemin qu'ils ont parcouru et tout le chemin qu'il leur reste à parcourir. Arriver dans un pays, arriver dans une ville, arriver dans une association d'accueil, arriver dans une administration. Mais en fait, ils arrivent quand? Il y a aussi dans ce documentaire un homme qui est devenu interprète. Autrefois, c'était l'un d'eux. Il a lui aussi quitté son pays étant enfant. Son histoire est semblable. Il aide aujourd'hui comme il peut ses jeunes.
Ça m'arrive de faire des récits très difficiles. Dès que je finis ce récit, je sors. Je ne vais pas prendre les transports en commun parfois. J'essaie de marcher d'abord un petit peu. J'essaie de me protéger un peu.
Il devrait se sentir apaisé. Il est posé dans le pays, dans la ville. Il est en règle avec l'administration. Il a même un métier dans une association. Mais il souffre encore d'entendre parler ces gens déracinés. Et donc, je me demande, est-ce qu'il est vraiment un jour arrivé? Est-ce qu'on peut dire qu'on est arrivé quelque part, quand toute sa vie, on a besoin de continuer à se protéger dans cet endroit? C'est une des émotions qui m'a traversé en voyant ce documentaire, mais il y en a plein d'autres.
Dans le documentaire, je me souviens surtout d'un jeune qui a connu la rue, qui s'en est sorti, qui est dans un foyer posé, et qui nous explique comment il aide d'autres jeunes qui sont encore à la rue. En gros, il dit « je les aide parce que je sais ce qu'ils ont vécu ». Ça me renvoie à une question professionnelle que je me pose régulièrement. Je revois un jeune qui me parlait de sa vie en cité, qui me disait « mais qu'est-ce que tu peux comprendre de ma vie? T'es sûrement né avec une cuillère en or dans la bouche ». Alors, non, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, mais petite Benjamin chouchoutée, je n'ai encore jamais, aujourd'hui, connu de drames familiaux, de grosses galères. Et parfois, vis-à-vis d'autres éducs qui n'ont pas eu un parcours aussi lisse que le mien, je me demande si je reste légitime. Mais en fait, faut-il avoir souffert dans la vie, avoir eu un parcours chaotique pour être un bon éducateur? Comment puis-je entendre, conseiller, être dans l'empathie avec un jeune dont les seules préoccupations chaque jour sont « est-ce que je vais manger? Où je vais dormir? Qui je vais rencontrer ?»
Je m'appelle Mohamed Agha, j'ai 16 ans, je viens d'Afghanistan. J'ai perdu mon père dans mon pays. Je suis parti avec mon frère. C'est au long de chemin que j'ai perdu aussi mon frère. Nous devons monter dans un bateau. Il y avait certains qui étaient déjà montés, d'autres pas encore. Il y avait une panique. Tout le monde courait dans tous les sens. Les gens disaient qu'il y a la police. Donc il y en avait 12 personnes déjà dans le bateau et le bateau a démarré. Et donc moi je suis resté dans le bateau, donc mon frère il n'a pas pu prendre le bateau.
Parfois je culpabilise après avoir entendu leur parcours de vie, leurs histoires, les entendre nous raconter comment ils ont côtoyé la mort, la disparition de leurs parents. Et je me revois la veille, en train de râler sur ma copine qui a oublié de réserver le resto, ou m'énerver pendant une heure parce que mon ordinateur a bugué. Je me sens ridicule dans ces moments-là. Et même, le comble, c'est la fois où un jeune, me voyant ému lors du récit de son parcours migratoire, a pu dire à son éduc dans la voiture, ça doit être dur pour la stagiaire d'entendre ça. C'est lui qui m'a protégée à ce moment-là. C'est lui qui s'inquiétait de savoir si j'allais bien, comment son récit avait pu m'affecter. Au final, les statuts avaient changé. Ce jeune qui s'appuie au quotidien sur un grand frère protecteur, une voisine éduc qui s'improvise tati, des associations, a pu, à son tour, être protecteur de quelqu'un. Je pense que la vie, c'est ça. On ne doit pas rester assigné à la même place.
Moi, je garde en tête l'image de cette directrice d'association qui cherche désespérément un lieu où dormir pour deux enfants.
15 ou 16 ans. Là, concrètement, ils sont revenus, ils sont dans nos locaux.
Elle appelle l'ASE pour les convaincre de trouver une solution.
Mais ils ont dormi dehors. Mais on peut pas même les héberger à l'hôtel, j'en sais rien. Là, il a 13 ans, donc je... Demain, on s'amène là. Ok. Au revoir. Voilà, il n'y a pas de solution.
On pourrait croire qu'elle a un sourire dans la voix.
Non, pas de solution.
Mais elle a les larmes dans les yeux.
Si, là, je suis pas bien, là. Non, non, mais je vois pas... Tout le monde s'en fout, donc...
Tout le monde s'en fout, je ne dirais pas ça. Mais j'ai l'impression parfois que les institutions et les personnes qui les dirigent sont déconnectées des réalités. Cette scène m'a révoltée, car elle montre que les autorités de notre pays sont parfois incapables de protéger certains jeunes, même si pour moi c'est leur rôle premier. J'ai compris sa détresse. Cette impuissance à protéger, je l'ai déjà vécue dans mon travail. Elle est très compliquée à vivre, parce que nous les éduques, on voit directement les conséquences du manque de protection sur les jeunes. Et en plus, c'est souvent à nous d'annoncer ce type de nouvelles. Dans ces cas-là, l'institution ne protège ni les jeunes, ni les professionnels.
Et après, il faut vraiment qu'ils aillent demain matin à 9h ou ça amène.
Donc là, maintenant, on attend la réponse,
la réponse
d'un hébergement. Secret.
Secret.
Secret, ça veut dire pas institutionnel. C'est un collectif de citoyens.
Alors, on a trouvé quelqu'un qui peut vous prendre à dormir chez lui ce soir.
Pour cette fois, l'issue sera heureuse.
Donc c'est tranquille pour ce soir, vous êtes au chaud.
C'est un message d'espoir, car des personnes sont capables de se mobiliser personnellement pour en aider d'autres, sans que ça soit leur métier. Mais en même temps, je me dis que ça n'est pas normal que l'on dépende de ces initiatives et que les institutions chargées de la protection ne soient pas capables de l'assurer dans les faits. La situation ne progresse pas, les moyens restent limités, car si les citoyens se substituent aux autorités, elles n'ont pas à faire face à leurs responsabilités. Notre travail et notre volonté, c'est de protéger les jeunes. Mais parfois, je me demande si on nous permet vraiment de le faire. Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a refugee. Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a refugee. Bonjour Monsieur Sanson.
Bonjour.
Bienvenue, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes éducateurs en formation à la protection judiciaire de la jeunesse.
On va vous laisser peut-être vous présenter.
Je suis assistant social depuis bientôt 20 ans. J'exerce en polyvalence de secteur pour une collectivité territoriale départementale. Sur des missions de protection de l'enfance, insertion, logement, etc. Je suis aussi secrétaire de la FSU territoriale de l'Hérault, et donc on s'intéresse aussi aux questions de la protection de l'enfance au travers de ce mandat syndical.
Peut-être d'un point de vue plus général, on peut peut-être vous demander ce que pour vous protéger veut dire.
Protéger, c'est à la fois prendre soin et à la fois peut-être prendre soin de la liberté de l'autre. Par rapport à des travailleurs sociaux ou des futurs travailleurs sociaux que vous êtes, je pense que cette notion-là, elle est relativement importante. Au nom de la protection et de la protection de l'enfance, on va s'arroger des droits qui, parfois, oublient que la personne qu'on veut protéger a aussi des droits et des libertés. Et donc, il faut arriver à faire cet aller-retour à chaque fois entre le besoin de protection et la liberté de celui qu'on veut protéger, parfois malgré lui.
Juste, je reviens justement sur votre casquette de travailleur social, assistant de service social, de la protection de l'enfance. Quelles sont vraiment les difficultés, les limites que vous avez dans le travail au quotidien ?
Les limites que vous cernez le plus facilement sont les limites institutionnelles, surtout au moment aujourd'hui où on est dans ce débat. Les départements n'ont plus de moyens pour s'occuper des mineurs confiés. Donc, vous avez ces limites institutionnelles qui, bon, on va pas... D'accord ? Mais on a trop tendance aujourd'hui, même nous en tant que professionnels, à dire « on manque de moyens, c'est la faute à l'institution, nanani, nanana ». Bon voilà, une fois qu'on a dit ça, remarquez, on est soulagé de notre propre responsabilité. Il n'empêche que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse bien sur notre responsabilité et notre capacité à pouvoir être des acteurs réels de la protection et non pas des acteurs administratifs. Vous avez dans la protection de l'enfance une volonté de la société d'avoir un risque zéro. Elle amène, chez les professionnels que vous serez, des tentations d'autoprotection. C'est-à-dire que je ne prends pas de risque. Ne pas vouloir prendre de risque, c'est vous êtes un papa ou une maman, y a eu un débordement par rapport à l'enfant à un moment donné, un mauvais geste, etc. Plutôt que de mettre des moyens pour vous accompagner, Et donc de prendre le risque de vous laisser l'enfant avec vous tout en ayant un étayage, etc. On va sécuriser l'enfant. Et le moment où l'enfant va être placé, on sera bien incapable de dire à quel moment il reviendra au domicile. Et c'est le vrai problème aujourd'hui de la protection de l'enfance, il se situe là. C'est-à-dire qu'on a insécurisé des professionnels. Et là, vous avez toute une chaîne, c'est-à-dire le professionnel lui-même sur sa capacité à prendre des responsabilités, à en assumer, à les expliciter, à les défendre, etc. Parce que je dis bien, c'est pas un jeu de dés. Je suis pas en train de dire, il faut prendre des risques en jetant des dés. Ça veut dire, grosso modo, je vais choisir ce qui est le mieux pour l'enfant. Et ce qui est le mieux pour l'enfant présente un risque. Mais en même temps, le but de la protection de l'enfance n'est pas que de protéger sur l'instant l'enfant. Il est aussi de se dire, mais trouvons des solutions pour que ce risque n'existe plus. Ou qu'il soit le plus minime possible. Et cette partie-là, on a tendance à de plus en plus l'oublier. Alors vous qui allez être des éducateurs PJJ, par exemple, on peut attendre de vous, non pas que vous protégiez les enfants, mais que vous protégiez les citoyens de ces enfants. Je dis juste que la société risque d'attendre ça de vous. Et alors vous, votre responsabilité professionnelle est de sortir de ce schéma dans lequel on aimerait vous placer. Voilà.
Justement, juste avant que vous arriviez, on avait une discussion entre nous. Du coup, c'est plus notre responsabilité en tant que futur professionnel que l'institution au final.
Moi, si vous voulez, je trouve que que ce soit votre métier, le mien, etc., c'est des beaux métiers parce que c'est des métiers qui offrent cette liberté. Ça reste un beau métier tant que vous avez cette marge de pouvoir accompagner, de ne pas vous faire agiter. La manière dont vous rentrez en contact avec les jeunes, les choix que vous faites d'accompagnement relèvent de votre autonomie technique. Et c'est beau d'avoir cette liberté-là. Je veux dire, c'est ce qui fait la valeur de nos métiers.
Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses. C'était très riche et ça nous donne des pistes de réflexion pour notre pratique future. Donc merci et à bientôt.
Avant d'être éducateur, éducatrice, on est des humains comme les jeunes dont on s'occupe, avec notre histoire, nos problèmes, notre vie. Un jour, j'ai été percutée par une situation au travail. Au tribunal pour enfants, j'ai entendu un juge ordonner à deux frères une interdiction qu'ils entrent en contact de quelque manière que ce soit. Moi, j'ai une sœur jumelle, et cette interdiction, bah, ça a tellement fait écho dans ma vie personnelle qu'en rentrant chez moi, j'ai pleuré. Ça m'a semblé une telle violence, cette séparation forcée. Je ne m'attendais pas à ressentir une émotion aussi forte dans le cadre de mon travail. Ces larmes, je les ai vécues comme un échec. L'échec de n'avoir pas pu différencier vie pro et vie perso. L'échec de n'avoir pas pu me protéger de mes émotions. En fait, je ne sais pas si c'est possible de s'en protéger. Et puis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense qu'il faut pouvoir ressentir dans notre travail. C'est important. Je me dis que le fait de m'être mise à la place du jeune, ça peut me permettre de pouvoir mieux le comprendre. Et avec ça, je peux espérer faire un meilleur travail avec lui. Travailler sur les émotions, c'est important aussi. Au moins en parler avec quelqu'un, des amis, de la famille, des collègues. Il ne faut pas s'arrêter à juste les ressentir. Il faut comprendre pourquoi on les ressent. Je crois que ça deviendra une force, une aide au travail éducatif futur. Du coup, je pense que se protéger des émotions, c'est pas une bonne solution. Sinon, il ne fallait pas choisir de travailler dans le social. Et puis, de toute façon, on a inventé le paratonnerre, le parapluie, le parasol. Et bon, personne n'a encore trouvé le para-émotion, non ?
En formation ? J'ai beaucoup entendu que pour se protéger des émotions, il faut trouver la bonne distance.
Ah ouais, la bonne distance. Moi, en fait, ça me fait bien rire. J'ai en tête un dessin de pavot, en fait. Et sur ce dessin, il y a l'éducateur qui est au bord de la falaise. Et puis, il demande au jeune qui est très très loin. Il lui demande, et là, je suis à la bonne distance. Et le jeune, en fait, il rigole et il lui dit, non, recule encore un peu.
Oui, le monde est rempli de dangers, et se protéger en amont, c'est nécessaire. On met un casque pour faire de la moto, de la crème solaire en plein été et des capotes pendant le sexe. Mais parfois, la protection excessive devient une surprotection. J'ai grandi dans une famille remplie de bienveillance et de bonnes intentions. Mais les peurs et les angoisses de ma mère prenaient tellement de place, je n'avais pas le droit de grand-chose. Mes envies d'aventure, ma mère, elle les voyait souvent comme un danger de mort. J'avais l'impression de vivre dans une prison dorée. Je ne pouvais pas partir au bout de la rue, grimper aux arbres, voir des amis, aller en soirée, ou simplement m'habiller et manger comme je voulais. Alors, à 14 ans, ces dangers dont ma mère voulait tant me protéger, j'ai foncé droit vers eux. Libérée de mes chaînes, j'ai voulu tout tester, tout découvrir. J'ai menti, j'ai fait le mur durant des mois, je suis partie en teuf, dans des squats, j'ai commis des délits, j'ai côtoyé des gens dans une grande précarité. J'ai rencontré des gens malveillants, je me suis mise en danger volontairement. J'ai pris des risques pour ma vie et pour ma santé. J'ai bien plus que frôlé les limites. Avec du recul, avoir sauté toute seule dans ce grand bain alors que je n'avais pas encore appris à nager, j'aurais pu me noyer dans le secret. En voulant me protéger, ma mère m'a empêchée d'explorer mes limites. Et c'est ça qui m'a fait fuir pour foncer dans le mur. Je n'ai pas pu apprendre étape par étape. Et du coup, je me suis pris de plein fouet les questions de méchanceté et de violence que je connaissais pas en vrai. J'avais pas de carapace. Après, je lui en veux pas à ma mère. Je sais qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait et qu'elle pensait vraiment agir pour mon bien. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Et je veux continuer à voir la lumière en chacun, la beauté du monde. Je refuse d'hériter des angoisses de ma mère. Je refuse de voir le monde menaçant. Un jour, je serai maman. Il faudra que je trouve le juste milieu pour que mes enfants puissent explorer le monde sans trop se mettre en danger. Je voudrais leur apprendre à se protéger eux-mêmes pour les moments où je serai pas là.
Waouh! On ne s'est pas beaucoup protégé durant cette émission.
C'est vrai, on s'est tous un peu dévoilé, mais bon, j'imagine que c'était pour la bonne cause.
Oui, c'est important de tirer des leçons de nos aventures de vie. Et voilà, c'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez tous passé un bon moment. Pour nous, on a déjà pas mal fait le tour de la question. Allez, on vous rend l'antenne, mais avant, nous voudrions remercier
le collectif de l'Utopia pour son engagement.
Mathias, des écologistes de Leuzière, pour sa passion de la nature contagieuse.
Emmanuel Sanson, de nous avoir consacré du temps.
Merci à nos formateurs, à Guillaume et Jean-Jacques de Wakadi, pour nous permettre de vivre cette expérience radiophonique et de nous transmettre leur expérience.
Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention.
On vous dit peut-être à bientôt.
Allez, salut.
Salut.
Salut. En vrai, ça vous a fait rire comme ça.